Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un livre de Virginia Woolf, Orlando. Pourquoi Orlando ? Eh bien parce que c'est un des personnages favoris de Agnès de Sarthe qui va être l'invité des 25e Lettres d'automne, ce festival littéraire propre à Montauban qui se déroule dans Montauban et dans sa région du 16 au 29 novembre 2015. Agnès de Sarthe sera l'invité principal. Agnès de Sarthe est écrivain, elle est essayiste, elle a consacré un essai important à Virginia Woolf avec Geneviève Brisac, elle écrit des livres pour les enfants, elle est traductrice, donc elle touche vraiment beaucoup de panels, elle a un panel très large. C'est 25e lettre d'automne aussi, outre Agnès de Sarthe qui viendra avec des invités qu'elle a choisis, qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas encore, mais qu'elle apprécie et qu'elle admire. Ce sera aussi l'occasion pour retrouver des auteurs qui ont participé aux éditions principales des Lettres d'automne. Vous pouvez dès maintenant avoir le programme complet qui se trouve dans les librairies et aussi au théâtre, ainsi qu'à la Petite Comédie, qui est un an d'existence maintenant, qui se trouve 41 rue de la Comédie. Vous pouvez aussi, avant le festival, retenir dès maintenant vos places au 05 63 63 57 62. Mais allez sur le site de Confluence, lettresdautomne.org, et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour cela. Ne tardez pas trop, car les réservations se font rapidement et il y a des soirées qui sont déjà presque entières retenues. Voilà. Alors, un mot d'abord sur Virginia Woolf peut-être. Virginia Woolf est née en 1882, elle est décédée en 1941. C'est une femme de lettres anglaise et ça fut une figure marquante de la société littéraire londonienne et un membre central de ce qu'on a appelé le Bloomsbury Group, qui réunissait des écrivains, des artistes, des philosophes anglais. Ses romans sont bien connus, je crois, Mrs. Dalloway, La promenade au phare, Orlando en 1928, et il y a un essai aussi qui s'appelle Une chambre à soi. Virginia Woolf a une vie assez, on en parlera sans doute, assez, on peut pas dire tourmentée, peut-être. Ça a été une femme qui aimait beaucoup la vie, sous toutes ses facettes. Elle souffrait aussi d'importants troubles mentaux, souvent à la suite de chocs. Et en fait, à l'âge de 59 ans, elle s'est suicidée par noyade dans la rivière du village de Rodmel, où elle vivait avec son mari, Leonard Woolf. Maintenant, un mot sur Orlando de Virginia Woolf. C'est un roman qui décrit la vie d'un personnage qui va commencer sous le règne d'Elisabeth II d'Angleterre, d'Elisabeth I d'Angleterre, pardon, et qui se termine plusieurs siècles plus tard, en 1928. Donc, à travers 3 siècles, 300 ans, Virginia Woolf suit son protagoniste qui se transforme. L'homme qu'il était au départ prend au fil du temps conscience d'être une femme. C'est un roman, peut-être pourrait-on le qualifier d'apprentissage. C'est le portrait d'un personnage qui oublie de mourir, qui continue à vivre, qui est animé par l'ambition de s'affirmer aussi dans sa pratique artistique. Ce roman est pour moi une ode à la vie, une ode à la vie, à la création artistique et au sens. Il y a aussi, il faut remarquer que la force expressive de la langue de Virginia Woolf est tout à fait étonnante. Alors, pour en parler aujourd'hui, sont réunis dans le studio de CFM, Jeannette, bonjour Jeannette, bonjour. Geneviève, bonjour, bonjour. Monique, bonjour. Je ne sais pas qui veut commencer peut-être, Geneviève, est-ce que vous voulez dire un peu ce que vous avez ressenti à la lecture de ce roman et aussi nous présenter un peu plus le personnage d'Orlando?
Oui, parler de Virginia Woolf est toujours un peu difficile et d'ailleurs certains lecteurs peuvent se dire « Oh là, c'est trop compliqué ». L'auteur lance un fil, l'abandonne, le repère, et peut être effrayé par cette lecture. Et pas dans notre cercle, nous avons constaté que certains lecteurs n'avaient pas accroché. Et pourtant, c'est un grand livre. Et quand on connaît Virginia Woolf, il me semble que l'on a un grand, grand plaisir à lire ce livre-là, qui est à la fois, comme vous l'avez dit Jacques, joyeux, plein d'humour, transpirant l'amour de la vie, exaltant parce que il y a un désir de d'art, de beauté, de comprendre, de poser des questions. Ça en fait un grand livre et il me semble aussi que dans son parcours, c'est un des livres peut-être les plus joyeux où la mélancolie qui la touche parfois, qui est présente ici, suggérée surtout, est peut-être moins prégnant. Voilà. Alors, on pourrait, si par exemple il y a un lecteur qui cherche dans ce livre-là le divertissement, oui, pourquoi pas, mais c'est bien difficile de dire que l'on va passer un moment de lecture pour aller ailleurs. Non, ça interroge. Donc, lecteur qui ne veut pas de questions dérangeantes, s'abstenir. Les autres, oui. Et lire et même relire ensuite des passages, parce que le style est vraiment très savoureux. Et le livre n'est pas du tout décourageant, même si il pose les vraies questions. Voilà ce que je voudrais dire. On a quelquefois dit que c'était un livre fantastique. Je trouve que c'est un procédé littéraire qu'a trouvé Virginia que de faire vivre un personnage pendant 300 ans ou plus. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas un livre fantastique. Si l'homme devient, le personnage masculin devient une femme, c'est pas fantastique non plus. Tout ça, c'est pour poser la question du moi, de l'être que nous sommes, avec toutes nos facettes. Et je crois que ce qui est à l'origine du trouble de Virginia Woolf, c'est de s'interroger sur cette multiplicité de l'être. D'où l'étrangeté de ce personnage.
Voilà. Alors, on reviendra sur les thèmes, voilà, qui sont abordés. Pour un peu aller dans votre sens, je voulais vous citer un extrait de Virginia Woolf a écrit un journal, un extrait de son journal du 18 mars 1928, où elle parle d'Orlando, justement, qui est paru, encore une fois, en 1928. « J'ai écrit ce livre plus vite que les autres, et c'est une grande farce, mais aussi une littérature distrayante et agréable, il me semble, les vacances d'un écrivain. Je commence à croire que je n'écrirai plus jamais de roman. Ici et là, la rime pointe le nez. Enfin, nous partons samedi sillonner la France et nous serons rentrés pour l'été le 17 avril. » Voilà. Vous voyez, elle le considérait elle-même un peu comme un livre aussi, comme elle le dit, distrayante et agréable.
Hein? J'ai envie d'enchaîner sur Geneviève parce que je faisais partie de ceux qui n'avaient aucune attirance particulière. Et pour Virginia Woolf, dont j'avais gardé un souvenir de lecture pas agréable il y a une trentaine d'années. Et sur ce livre-là en particulier. Et j'ai été complètement retournée à la lecture de ce livre qui m'a paru effectivement de plus en plus riche pour tous les sujets que Virginia Woolf soulève, mais aussi d'une créativité extraordinaire. Enfin, j'ai été j'ai trouvé que sa fantaisie relevait d'une créativité particulière. Et alors, je dis sous la pochade, puisqu'elle prétend que c'est une pochade ou une farce, enfin, etc. Elle incite quand même le lecteur à trouver autre chose, et j'ai envie de vous lire un extrait à la page 73.
Ah, très bien.
Il est assez clair, pour ceux qui ont bien rempli leur rôle de lecteur, c'est-à-dire qui sont capables, à partir de minces indices semés ici et là, de reconstituer ce qui délimite et circonscrit une existence individuelle, capable d'entendre une voix individuelle dans les allusions que nous murmurons, de voir, alors même que nous n'en disons rien, à quoi ressemblait exactement cet individu, de savoir, sans un seul mot pour les guider, précisément, ce qu'ils pensaient, et c'est pour de tels lecteurs que nous écrivons. Il est clair, donc, pour de tels lecteurs, qu'Orlando était un étrange mélange de multiples humeurs, mélancolie, indolence, passion, amour de la solitude. Voilà qui était Orlando, et je pense Virginia Woolf de même. Et je trouve que dans ce livre, on retrouve vraiment tous les thèmes chers à Virginia Woolf, qu'il s'agisse du problème de l'identité, enfin la féminité, masculinité en chacun d'entre nous, les angoisses de l'écrivain, le rôle des critiques et le rôle souvent très négatif des critiques. Enfin, il y a un foisonnement et en même temps, ceux qui connaissent sa vie retrouve dessous des personnages bien, bien vivants et bien réels.
Oui, je crois que vous me tendez la perche là pour insister sur un fait. Ce livre de Virginia Woolf, en fait, c'est une vie transfigurée qu'elle a écrite en honneur à la gloire de son amie, qui était une dame de la haute société, une noble très ancienne, de noblesse ancienne, qui s'appelait Vita Sackville-West, et que Virginia admirait énormément parce que cette femme avait une liberté de ton, d'attitude. Cette femme était capable de se déguiser en homme et de suivre son amante qui, à l'époque, était une autre femme qui a servi de modèle pour l'un des personnages de ce livre. Et elles allaient à Paris, elles allaient manifester lors du procès d'Oscar Wilde. Et ça, Virginia était vraiment ébahie, stupéfaite par la liberté de ton et d'action de cette femme.
Enfin, qu'elle pouvait se permettre à cause de son aristocratie.
De son aristocratie, évidemment. Et Virginia, elle-même l'admet, elle était assez snob. En fait, elle admirait beaucoup tout ce qui était noblesse anglaise. Donc, elle a eu une grande passion pour cette femme. Et elle a écrit ce livre, en fait, à la gloire de cette femme. Donc, en trame, pendant tout le livre, on retrouve en fait tout ce qui a trait à la vie et des ancêtres de cette Vita. Et elle en profite aussi pour parler de ses propres aspirations, parce que Vita était soi-disant poète, mais paraît-il pas très brave. Vita admirait également beaucoup Virginia. Vita a eu ses titres les aïeux de Vita ont eu les titres de noblesse attribués par Élisabeth Ière. Donc les trois siècles et 20 années qui couvrent ce livre correspondent exactement à la vie de Vita et de ses ancêtres et s'arrêtent le jour de son anniversaire, le 28 août 1928. Voilà. Donc j'insiste aussi sur le fait que plus on connaît les relations qui existent entre Virginia et Vita, sont importantes aussi pour comprendre toutes les astuces, les allusions qui sont dans ce livre et on en savoure beaucoup plus, disons, la profondeur. Voilà, en plus, je trouve que Virginia règle tous ses comptes avec les critiques de toutes les époques. Virginia a beaucoup souffert de pas avoir pu suivre des études comme ses frères à Cambridge ou Oxford, alors qu'elle parlait beaucoup mieux le grec qu'eux-mêmes. Et paraît-il que dans ses moments de folie, elle rêvait que ses oiseaux parlaient en grec. Et une psychiatre a dit, c'est la première femme qui a ce type d'hallucination. Donc voilà, il y a des quantités de choses à tirer de ce livre sur les trois siècles, parce qu'elle est très élisabéthaine, shakespearienne, elle a Orlando, le titre. Et puis après, elle règle tous les comptes avec ces grands messieurs de la littérature anglaise, ceux qui avaient beaucoup d'humour, etc. Donc c'est un livre à lire avec, non pas parcimonie, mais avec attention et même revenir après sur certains passages.
Voilà, revenir après et puis peut-être aussi donc s'intéresser à la vie de Virginia Woolf, puisque comme vous le dites, il y a de nombreuses correspondances entre sa vie et entre le livre. Mais plaçons-nous dans la position d'un lecteur qui ne connaît pas la vie de Virginia Woolf, qui va simplement se plonger à la suite de notre émission là sur Orlando. Qu'est-ce qui fait que il va être accroché par ce livre tout de même? Qu'est-ce qui fait? Il y a les thèmes bien sûr qui sont retenus, il y a l'écriture.
Ceci dit, donc pour faciliter l'entrée dans le livre, il me semble que cette question de toutes ces générations passées que qu'on nous fait revivre avec le personnage d'Orlando, on peut très bien l'expliquer par le par cette question du moi que pose Virginia Woolf. Nous sommes non seulement avec notre nature vraiment unique, mais nous savons que nous devons à nos ancêtres, les proches et les lointains, et par la culture, nous devons, nous nous sommes tributaires aussi de tout ce que l'on a appris, et donc c'est assez.
Et tout ce qu'on a hérité aussi.
Tout ce dont on a hérité par la connaissance.
Oui.
Hein, donc c'est tout à fait c'est un procédé littéraire qu'elle a choisi de faire vivre pendant longtemps, s'inspirant effectivement de Vita, mais c'est nous obliger aussi à prendre conscience que si nous sommes nés en France, eh bien par la culture, nous avons assumé toute l'histoire de France, tous les personnages qu'on a fréquentés à l'école, que l'on a lus, etc. Et donc Virginia, très cultivée, est aussi tributaire de tout ce qu'il... C'est un peu un portrait de l'Angleterre qu'elle fait à travers le personnage d'Orlando, avec bien sûr ce regard critique... Et en même temps, cette difficulté à voir l'avenir et parfois, dans son élan, le trouble de l'esprit qui l'apprend à ne pas pouvoir envisager l'avenir, à être prisonnière de cette multiplicité.
Mais en même temps, le lecteur, je trouve aussi, peut goûter l'humour anglais. Ben moi, j'avoue que j'ai bien ri à certains passages. Et il y en a un là qui me tombe sous la main. Où elle prend le lecteur à partie, en quelque sorte, en disant « Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, le lecteur peut très bien imaginer tout ce qui va suivre. » Et alors, par exemple, elle dit « Mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il est plus rapide d'atteindre la même conclusion, c'est-à-dire après avoir fait une longue description, en disant simplement que le temps passa, en indiquant peut-être la durée exacte entre parenthèses, et qu'il n'arriva rien du tout. » Alors c'est bourré de choses comme ça, ou alors encore un passage où comme Stern dans je sais pas quoi les aventures de Tristram Shandy dit bon ben là maintenant je laisse un blanc parce que il faut que le lecteur puisse imaginer ce qu'il veut. Elle le fait, elle reproduit cette affaire là.
Vous êtes bien sur CFM, cette radio de Montauban et de la région, la pop, le rock, l'info, mais aussi la culture. Et aujourd'hui, c'est une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Nous échangeons autour d'Orlando, un roman de Virginia Woolf. Vous avez parlé, Geneviève, justement du moi, puisqu'on reconnaît un peu, je crois aussi, il y a l'influence de Freud aussi qui commence à se marquer, puisque on voit que l'être est éclaté, que le moi n'a peut-être pas d'identité unique. Le changement de sexe d'Orlando, qui va faire naître certaines limites, peut-être, en ce qui concerne le désir, la force des sentiments, je trouve que le personnage garde toujours son identité. Non? Comme si le changement de sexe ne modifiait en rien son identité profonde, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce qu'à la fin du roman, vous trouvez que Orlando, est-ce qu'il aura trouvé vraiment, il aura découvert un peu qui il est, ou qui elle est?
Alors, je ne sais pas. Il est sûr que là, nous avons au fond le biographe qui existe vraiment dans le livre, c'est-à-dire l'écrivain, mais Virginia Woolf, romancière quand même, fait la différence entre être biographe et être romancier. Je ne sais pas si je vais retrouver la citation sur le... Si, c'est là. Je vais peut-être répondre tout à l'heure à votre question,
allez-y,
Jacques.
Allez-y.
Pour nous résumer, contrairement au romancier qui peut prendre le temps de défroisser la soie chiffonnée et tout ce qui en découle, nous dirons qu'Orlando était un gentilhomme atteint par l'amour de la littérature. Le biographe ici, donc biographe et pas romancier, dit-elle, avec l'humour qu'a signalé Jeannette, c'est le socle raisonnable, rationnel que l'on trouve ici et qui est une part de Virginia Woolf. Orlando, au contraire, est très différent. Virginia Woolf se trouve dans les deux. Le personnage, tantôt exalté, tantôt mélancolique, est pris dans cette multiplicité et parfois exalté, tout d'un coup rassemblé sur un désir, un élan, et à d'autres moments, complètement fuyant. Par exemple, ce qui le rassemble, ça sera quand même toujours un peu l'amour. Et donc, je répondrai, oui, à la fin du livre, le personnage se rassemble autour de cette idée. Il y en a deux même, deux choses qui rassemblent le personnage. C'est l'amour, et donc on a un... Elle est femme à la fin, et elle rencontre l'amour après avoir été très profondément marquée par la trahison du début du livre, cet amour manqué. Mais également, il y en a un autre, l'amour de la nature. Et d'ailleurs, c'est au moment où est perdu de désir et d'élan, d'admiration de la vie lorsqu'elle plonge, qu'elle tombe la tête la première dans l'herbe, elle se casse la cheville, qu'arrive un beau jeune homme sur un cheval, qui tombe lui-même de cheval, ils sont nez à nez dans l'herbe et le coup de foudre arrive là. Donc oui, c'est le moi se rassemble à ce moment-là, mais quand même plane toujours.
Moi, j'ai eu
le vol des oies sauvages. Mmh. Il rappelle que rien n'est acquis. Voilà. On peut pas simplifier.
Non,
Virginia
on peut pas
Woolf.
Simplifier, mais j'ai trouvé que elle était plus à l'aise finalement quand elle devient femme. Plutôt que quand elle est homme. Quand elle est homme, elle est il y a cet amour qui a été destructeur pour Orlando homme, mais il y avait l'amour de la littérature. Il n'arrêtait pas de couvrir des pages et des pages de romans. Il était très prolixe pour. Et quand elle est femme, alors d'abord elle est encombrée par ses habits et je trouve que c'est très très drôle.
Vous avez raison, c'est formidable ça.
Le passage, c'est et quand elle est obligée de servir le thé, alors quand elle était homme, c'est on lui servait le thé, elle est obligée de faire des manières, voulez-vous du sucre et tout ça, ça l'énerve au plus haut point. Et elle pense plus à la poésie, mais d'une façon beaucoup plus, elle étudie plus les milieux littéraires, les milieux critiques, il me semble, au XVIIIe et XIXe siècle. Et elle a des passages absolument hilarants sur les beaux esprits de l'époque, qui ne disaient qu'un beau mot une fois par an, parce qu'ils s'en auraient dit deux, ça aurait perturbé toute l'intelligentsia anglaise. Et alors, il se contentait de dire, aujourd'hui, j'ai la goutte dans le genou droit, et la fois d'après, à la réunion, c'était dans le genou gauche. Voilà, ça, c'était les bons mots. Elle est terrible, hein, par rapport.
Mais je résiste pas à l'envie de vous lire ce passage où, justement, elle dit, quand même, la condition féminine, c'est pénible, il faut passer sa vie à se pomponner.
Ah là là. Alors,
elle se rappela ses exigences de jeune homme. Une femme devait être docile, chaste, parfumée et mise à ravir. Désormais, je vais devoir payer de ma propre personne pour satisfaire ces exigences, songea-t-elle, car les femmes ne sont pas de manière innée, si j'en juge d'après ma courte expérience du beau sexe, docile, chaste, parfumée et mise à ravir. Elles n'atteignent à ces grâces qui sont pour elles l'unique clé ouvrant les joies de l'existence qu'en s'astreignant à la plus fastidieuse discipline. Il faut se faire coiffer, songea-t-elle. Et à elle seule, l'opération me prendra 1 heure tous les matins. Il faut se regarder dans la glace encore 1 heure, se corseter et se lacer, se laver et se poudrer. Il faut quitter la soie pour la dentelle et puis la dentelle pour le pouls de soie. Il faut être chaste tous les jours de l'année.
Voilà. Et ce qu'elle regrette surtout, c'est qu'elle n'aura plus le droit de prononcer des jurons.
Oui. Hein?
C'est le dernier juron auquel j'aurai droit, songea-t-elle.
Oui. Voilà. Bon, et autrement, tout à l'heure, on parlait de quand même de la substantifique moelle, au-delà de ce qui nous a fait rire. Également.
Ceci dit, c'est très très important, mais cette histoire d'hommes et des femmes.
Tout à fait.
Et c'est à la gloire des femmes. Hein. Je suis d'accord avec Monique aussi pour dire que c'est troublant, mais elle est quand même très fière d'être femme dans la deuxième partie du livre.
Et que la beauté est une conquête, en quelque sorte. Mais également, c'est intéressant aussi tout ce qu'elle dit sur son métier d'écrivain.
Oui.
Voilà. Et sur le rôle destructeur des critiques, on en a parlé. Mais je ne sais pas si vous voulez que je lise encore un passage. Mais tous ceux qui ayant une idée même vague des rigueurs du style comprendront à demi-mot ce qu'endura Orlando, qu'il trouva bon ce qu'il écrivait, infâme ce qu'il relut, qu'il entreprit de corriger et de déchirer, supprima des phrases, en ajouta d'autres, fut aux anges, puis au désespoir, etc., etc. On sent que c'est du vécu. Non,
d'ailleurs, le livre se conclut sur la publication de son poème qu'elle a écrit pendant 3 siècles.
Le chêne.
Elle finit par le terminer. Le chêne.
Voilà, dans l'angoisse, hein, oui, dans l'angoisse. Oui. Ceci dit, on sait que Orlando a eu du succès.
Oui.
Hein,
oui.
Voilà. Oui. Et elle craignait, enfin Virginia oui, craignait.
Elle pensait qu'il n'aurait pas du tout de succès. Il en a eu en fait, puisque très vite, je crois qu'il a été tiré à 6000 exemplaires,
beaucoup,
ce qui est vendu, ce qui a été déjà important.
Elle avait beaucoup de doutes sur.
Oui. Surtout à la fin. À la fin.
À vrai dire, son écriture est quand même très singulière.
Ben, oui. Et puis, c'est-à-dire que dans ce livre.
À l'époque et même aujourd'hui encore.
Oui, parce que aujourd'hui, ce qui à la fois séduit et ce qui peut quelquefois aussi un peu perturber, c'est que il y a tout de même l'écriture est nombreuse elle est marquée par de nombreux changements de style. Puisque on va quelquefois d'un grand lyrisme lorsqu'on est dans la nature avec jusqu'à des réflexions humoristiques. Il y a tout ça qui est mélangé, etc. et qui, qui crée,
avec
je trouve.
Avec une histoire débridée en même temps.
Avec une histoire en même temps très débridée, dans laquelle. Oui. Donc c'est un au-delà de l'histoire même, si vous voulez, qui peut un tout petit peu surprendre. Je crois que c'est un texte qu'il faut savourer. Il faut vraiment, on peut très bien le prendre et puis en lire quelques pages, si vous voulez, simplement, mais savourer un petit peu ce qui est savourer l'écriture.
Comme oui. Ça, hein. Mais autrement, ce que je trouve touchant aussi, c'est ce qui apparaît de la façon dont elle a dû souffrir, elle qui avait quand même cette personnalité un peu ambiguë, amour féminine, amour masculine, etc. Et dans un siècle où on n'était pas tendre avec l'homosexualité, si on n'appartenait pas, comme Vita Saglil,
à la bonne société,
à l'aristocratie. Et je trouve que ça ressort, et c'est peut-être un peu autobiographique, dans cette simple phrase. Elle dut finalement envisager le remède le plus désespéré, se soumettre entièrement à l'esprit du siècle et prendre un mari. Et on a un petit
tout
peu...
Tout est résumé, là.
Tout est résumé. Alors que, elle le disait précédemment, ce qu'elle voulait, c'était la vie et un amant. Et elle dit, et pas la vie et un mari.
Oui.
Mais donc, peut-être pour se soumettre à l'esprit du siècle qui a dû la contraindre.
Elle s'est mariée assez tard, d'ailleurs. Et le premier soupirant, c'était un homosexuel notoire du Groulx de Bloomsbury.
Voilà.
Elle a pas voulu, mais son mari n'avait pas apparemment des désirs charnels très prononcés. Ça a été presque un mariage blanc, dit-on. Et elle a trouvé, une certaine satisfaction sexuelle avec Vita. Mais elle s'est arrêtée à temps et Vita a mis le haut là parce qu'elle aimait beaucoup Virginia. Elle connaissait sa fragilité. Elle voulait pas que Virginia s'engage trop profondément avec elle. Voilà.
Ceci dit, il y a une très belle lettre pour finir de Virginia à son mari.
Oui.
Je pourrais vous lire.
Oui. Avant qu'elle laisse au moment d'aller suicider.
Oui, oui. Oui. Très cher. Je suis certaine de devenir folle à nouveau. Faut pas oublier que quand même ces fragilités psychiatriques, on va dire, sont liées à son histoire.
Oui.
La mort de sa mère.
Des morts précis, nombreuses, la mère, le père, le frère.
Sa demi-sœur.
Sa demi-sœur.
Son neveu.
Son neveu. Et puis peut-être aussi c'est ce qu'elle a subi en fait d'inceste, oui, dans sa jeunesse. Donc Léonard a dû être, je sais pas très bien, peut-être Monique vous pouvez le dire,
il me semble
un protecteur,
oui,
extraordinaire.
Qui l'a même incité à écrire.
À écrire, voilà. Elle lui dit, très cher, je suis certaine de devenir folle à nouveau. Je sens que nous ne pouvons plus traverser une autre de ces affreuses périodes. Et je ne reguérirai pas cette fois. Je commence à entendre des voix et je ne puis plus me concentrer. Aussi vais-je faire ce qui me semble la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été pour moi tout ce que l'on peut être. Je ne crois pas que deux personnes aient pu être plus heureuses jusqu'à cette terrible maladie survienne. Je trouve que quand même, c'est extrêmement fort.
Oui, eh bien, on va en rester là, l'émission se termine. Je vous rappelle que nous avons échangé autour de Orlando de Virginia Woolf, que l'invité d'honneur des lettres, que l'invité principal des lettres d'automne qui vont se dérouler bientôt à Montauban du 16 au 29 novembre est Agnès de Sarthe, qui est une grande connaisseuse de Virginia Woolf. Mais elle est aussi une écrivain, elle a écrit pour la jeunesse, elle est une traductrice, elle a écrit des essais, en particulier un essai sur Virginia Woolf avec Geneviève Brisac. Elle vient d'avoir le prix du Monde pour son dernier roman qui s'appelle Un cœur changeant. Et donc, ce sera avec un grand plaisir que nous l'accueillerons de nouveau à Montauban du 16 au 29 novembre. Allez sur le site de Confluence. Vous pourrez dès maintenant voir le programme complet. Vous trouvez aussi des petits fascicules, des petits livres même, puisque c'est un livre qui fait 96 pages, dans lequel le programme est détaillé. Profitez-en. C'est un festival tout à fait unique en France que vous avez la chance d'avoir à Montauban. Au revoir, merci, à bientôt et bonne lecture.